Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma. Bonjour, merci d'être à l'écoute de 48 FM pour ce magazine thématique consacré aujourd'hui au quartier de Fontanille-Amande qui vient de rentrer dans le dispositif quartier prioritaire de la politique de la ville dit QPV. Alors le décret fixant la liste des QPV en France métropolitaine a été actualisé en décembre dernier. À cette occasion, le quartier de Fontanille a fait partie des 111 nouveaux quartiers entrant dans le dispositif. Dispositif dont nous allons parler aujourd'hui et qui va permettre, grâce à des aides de l'État, de mener des actions de politique de la ville en matière de fiscalité, d'éducation, d'emploi, d'insertion et de développement économique et social. Justement, cet après-midi se tient une manifestation organisée dans le cadre de ce QPV qui s'intitule Place de l'Emploi. Alors en France, on compte environ 1500 quartiers qui regroupent 5 millions d'habitants, soit 8% de la population française. Les quartiers dits prioritaires de la politique de la ville sont les territoires où s'applique la politique de la ville qui vise à compenser les écarts de niveau de vie avec le reste du territoire. Alors si à Fontanille, on retrouve un taux de chômage supérieur à la moyenne départementale, il est encore assez bas. On n'est pas dans ce que l'on pourrait appeler un quartier dit sensible. Mettre des financements dessus, c'est aussi peut-être le moyen que ça ne le devienne pas. Alors pour discuter politique de la ville et quartiers prioritaires, dans cette émission en direct de la maison de quartier François Mitterrand de Fontanille, nous avons avec nous Régine Bourgade, maire de Mende et vice-présidente de la communauté de communes Cœur de Lozère. Bonjour.
Bonjour.
Alors, car le QPV est porté par la communauté de communes. Nous reviendrons dessus dans cette première partie d'émission. Thierry Jacques, élu et membre du conseil du quartier de Fontanille, bonjour.
Bonjour.
Enfin, Laure Trottin, qui est avec nous, qui est secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons justement commencer avec vous. Concrètement, comment on peut expliquer ce qu'est ce dispositif, ce qu'est un quartier prioritaire de la politique de la ville ?
Alors, qu'est-ce qu'un quartier prioritaire de la politique de la ville ? C'est un quartier où nous avons identifié un certain nombre de défis à relever pour appliquer les politiques de la ville au sein de ce quartier. Un quartier qui est, entre guillemets, défavorisé, et nous devons collectivement, les institutionnels, relever ces défis pour faire en sorte que les habitants de ce quartier puissent bénéficier au même titre que tous les autres des politiques de la ville.
D'accord, ça c'est l'objectif principal. Il y a d'autres objectifs à ce QPV ?
Oui, bien sûr, il y a d'autres objectifs. Alors, il faut savoir que la politique de la ville, c'est une politique qui a été mise en place il y a une quarantaine d'années. Et à l'époque, dans les années 80, la France subissait une grosse crise économique, il y avait beaucoup de difficultés à l'emploi, on avait ces grandes barres HLM où plus personne ne voulait habiter. Donc on était dans une logique de réparation. Là, on est maintenant, on appelle toujours ces quartiers politiques de la ville, mais quartier 2030, c'est-à-dire qu'on est dans une logique émancipatrice, et on a certains axes particuliers où on met notre accent. Alors, ces axes ont été développés, bien sûr, par co-construction avec nos différents partenaires. Il s'en est suivi d'un diagnostic local, de concertation citoyenne, de rencontres avec les élus, avec les associations. Et toutes ces rencontres ont donné un contrat de ville qui a été signé en juillet, et ce contrat de ville a défini plusieurs axes. En fait, sur le territoire des Fontanilles, contrairement à ce qu'on peut voir dans la plupart des QPV en France, on n'est pas dans une logique sécuritaire où il y a des gros problèmes de délinquance. Ce qui est remonté ici, c'est plutôt une logique socio-éducative. Les habitants nous demandent de travailler sur l'éducation, la mise en place de parentalité, de l'accompagnement de nos aînés, l'accompagnement de nos associations, notamment l'association de quartier Vivre à Fontanille. Donc voilà à gros traits les axes vers lesquels on souhaite, à la demande des habitants, travailler pour notre quartier de Fontanille.
C'est intéressant ce que vous venez de dire, on n'est plus dans la réparation, on est dans l'émancipation, Régine Bourgade. C'est ça ici, aujourd'hui ?
Ah oui, tout à fait. L'émancipation, elle a déjà commencé il y a quelques années. Et d'être aujourd'hui en QPV, ça va permettre d'accentuer cette émancipation et de proposer aux habitants et aux associations locales de pouvoir aller plus loin dans la démarche d'aller vers, dans la démarche de rencontre, et faire en sorte que les habitants se trouvent encore mieux dans le quartier où ils vivent aujourd'hui.
Sachant qu'il y a eu une enquête qui a été faite au début et qu'ils y sont déjà bien, on reviendra sur ces questions que vous aviez posées en amont avant. L'autre thème, vous avez aussi parlé de ces rencontres pour créer ce QPV. Alors l'inscription de Fontanille sur cette nouvelle carte a été mise en vigueur le 1er janvier dernier, donc ça a résulté du travail, ce que vous avez dit, de concertation entre les services préfectoraux, donc entre vous et les élus locaux, dont Madame Bourgade. Comment s'est passé donc ce travail en amont? Comment se sont passés les échanges, vous, avec les élus, et même question Madame Bourgade, avec la préfecture?
Ils se sont merveilleusement bien passés. Ça a commencé déjà par un dialogue entre les élus et Monsieur le Préfet, et une envie commune de construire quelque chose ensemble pour ce quartier. Donc il y a eu des questionnaires, enfin Madame Bourgade nous le dira plus amplement, mais il y a eu des questionnaires distribués aux habitants, une concertation en mars dernier avec les habitants du quartier, des réunions avec les partenaires locaux, le conseil départemental, la communauté de communes, les associations, les services de l'État qui ont été vraiment partie prenante. Je pense à la DDFI, peut-être SPP, la préfecture, et vraiment dans cette logique de co-construction. Chacun avait envie de créer une synergie et qu'on ne fonctionne plus en mode silo où chacun traite une problématique, mais vraiment de mettre en commun nos problématiques pour répondre aux citoyens à sa demande. C'est vraiment une responsabilité pour nous et nous devons être à la hauteur des demandes des habitants du quartier.
Oui, effectivement, ce travail, il a été fait en collaboration pleine et entière, mais il est parti de la proposition qui nous a été faite par Monsieur le Préfet pour l'éventuel classement. Donc ça a été proposé aux élus et au conseil de quartier, et d'emblée ils ont proposé d'aller faire du porte-à-porte dans les bâtiments pour pouvoir recueillir aussi l'assentiment des habitants, savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient, dans quel domaine il fallait porter l'accent, etc. Et ça nous a conforté dans le fait qu'il fallait aller vers la signature concernant ce contrat. Donc derrière, il y a eu une réunion publique avec les habitants où on a été très agréablement surpris parce qu'on a fait salle comble sur la salle Chaban-Delmas, pardon, je vais y arriver, où c'était assez rare de voir les habitants du quartier sortir, surtout pour des réunions publiques. Pour les réunions de quartier, les fêtes de quartier, on a déjà du mal à les mobiliser. Et là, ils sont venus en très grand nombre, et toute population confondue, aussi bien les personnes plus âgées, les actifs, mais aussi les jeunes. Et chacun a pu poser ses questions aux représentants de l'État qui étaient là pour savoir vers quoi on pourrait aller, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer, et eux nous ont fait part de leurs idées. Donc à partir de là, derrière il y a eu l'installation d'un comité technique au mois de mars pour justement travailler sur différentes pistes qu'a évoqué également Madame Trottin, l'emploi avec le dynamisme économique, le secteur jeunesse, l'éducation à la parentalité, la tranquillité, le cadre de vie et l'accès aux droits et le lien social. Donc c'est ça aujourd'hui qui se met en place petit à petit, avec des aides qui ont été allouées pour le dernier trimestre 2024 et puis des appels à projets pour
2025. Oui, on va y revenir dessus. Vous avez demandé l'assentiment de la population, c'est pas banal ça. Normalement, il y a une politique qui se met en place et elle se met en place. Là, on demande quand même l'assentiment. Alors, c'est une question que j'allais vous poser plus tard, mais du coup, j'y viens maintenant. Est-ce que de passer le quartier prioritaire de la politique de la ville, c'est pas trop stigmatiser le quartier et ses habitants ? Ses habitants le ressentent pas comme ça finalement ?
Non, je pense pas qu'ils le ressentent comme ça, parce que on leur a donné des explications. Qu'est-ce que ça va pouvoir apporter sur le quartier ? Quelles sont les améliorations qui pourront dans leur cadre de vie ? Et les gens finalement ne se sont pas sentis stigmatisés. Et bien souvent, c'est plutôt en dehors du quartier qu'on stigmatise le quartier, j'ai envie de dire. Donc on a fait aussi une communication par internet, ça a fonctionné correctement et c'était plutôt positif que négatif.
Et justement, de la part de l'État, les conditions autrefois demandées pour faire partie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, on pense à ces grandes zones urbaines en région parisienne où il y a beaucoup de délinquance, d'insécurité. Mais depuis 2023, on nous demande de regarder autrement les critères de définition d'un quartier prioritaire des politiques de la ville, un QPV, et on nous demande aussi d'en mettre en place en zone rurale. Ce n'est pas lié forcément à des problèmes de délinquance, ça n'a rien à voir. Et la Lozère était le seul département de France à ne pas avoir de QPV. Et c'est pour ça que ça nous a semblé tout à fait légitime que Fontanille puisse bénéficier de ce QPV, parce que il y a des avantages à avoir ce label, on n'en a pas parlé, mais ça nous permet d'avoir des subventions spécifiques. Alors là, en 2024, on est sur l'année zéro, donc on a eu le minimum de subventions, hein, 40 000 euros, qui nous ont quand même permis de financer une quinzaine d'actions lors d'appels à projets. Ça permet aussi d'avoir des allègements de charges fiscales pour les entreprises, autant des grosses entreprises, mais des entreprises individuelles, des auto-entrepreneurs, des charges fiscales, notamment un abattement de la contribution foncière des entreprises. Il y a quand même 35 ou 36 entreprises sur le quartier. Ce n'est pas rien. On a aussi d'autres avantages comme des aides à l'emploi dans le cadre des emplois francs, qui permet à tout employeur qui emploie une personne demandeuse d'emploi du quartier de bénéficier de 15 000 euros sur 3 ans. On a donc un certain nombre d'aides qui nous permettent d'avancer encore plus loin, comme je vous disais tout à l'heure, de relever ces défis qu'on n'a peut-être pas sur des zones de centre-ville, des zones différentes. Donc c'est pas stigmatisant, au contraire, c'est voir qu'il y a une particularité et qu'il faut qu'on relève tous ces défis pour qu'au moins tout le monde puisse bénéficier de ces politiques publiques. Sur l'éducation, là aujourd'hui, on travaille sur un programme qui s'appelle Cité éducative. C'est notre ambition pour 2025 et on y travaille activement avec les services de l'éducation nationale. Pourquoi on travaille sur ça ? Parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes de Fontanille, après le bac, eh bien, n'osaient pas faire des études entre guillemets, des études aller à Sciences Po ou des grandes écoles, faire médecine. Ils vont pratiquement tous en lycée professionnel. Alors, je dénigre pas l'éducation professionnelle, mais on s'aperçoit que ces jeunes n'osent même pas se dire...
Ils se créent des barrières.
Ouais, se dire, mais je pourrais aller à l'université, faire médecine, faire droit. Et donc, c'est notre rôle aussi, au travers du programme Cité éducative, pour lequel on espère qu'on sera aidé et retenu, et bien, moi j'y crois très fort, et bien ça sera d'aider aussi ces jeunes à la réussite scolaire et professionnelle. On peut les aider jusqu'à leurs 25 ans. Et pour nous, eh bien, c'est une ambition forte. C'est notre ambition de 2025 parce que chaque élève, chaque jeune a le droit à la même chance que les autres, quelle que soit sa place sur le territoire national.
Alors je reviens sur le questionnaire dont je parlais tout à l'heure que vous avez mis en place avant de s'occuper des 86% des personnes ayant répondu au questionnaire d'habitants de Fontanille affirment qu'il fait bon de vivre à Fontanille. Donc c'est un chiffre très élevé.
Oui,
donc c'est ce que vous disiez, ils ne se stigmatisent pas, c'est plutôt les autres qui stigmatisent à la limite ce qui se passe dans le quartier. Pour rentrer dans le dispositif QPV, on doit répondre à deux exigences. Un, la taille du quartier, 1000 habitants. On y est dans une unité urbaine d'au moins 10 000 habitants. Et deux, une concentration de pauvreté, donc moi je dis entre guillemets pour notre quartier, qui se définit par le revenu du quartier comparé au revenu moyen de l'agglomération. Donc ça c'est depuis 2014, on identifie les QPV comme ça. Pourquoi on est passé en QPV cette année finalement? Est-ce qu'il y a eu une évolution des réalités socio-économiques de ce quartier? Ou c'est que l'opportunité s'est présentée? Ou on n'y a pas pensé avant? Ou je ne sais pas.
Non, c'est aussi que depuis peut-être quelques années, il y a dire, une population moins aisée qui vit sur le quartier. Il est vrai que l'avantage de ce quartier, c'est aussi que les logements sont des logements très corrects puisqu'ils ont fait l'objet de rénovations au fil des ans, que ce soit par la SAIUM avant concernant les AB ou l'OSER Habitation. Et ces logements bénéficient également du réseau de chaleur. Donc ils ont un loyer et un montant de charges qui correspond davantage à plus d'habitants aujourd'hui.
D'accord.
Que ce qui ça pouvait être auparavant, des gens qui sont plutôt à conditions modestes. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, on a plus sur le quartier de personnes qui ont moins de ressources qu'auparavant. Mais il n'empêche que, effectivement, il est dit et il est vrai que sur le quartier, il fait bon vivre. Et en fait, on a amélioré aussi les choses au fil des ans en refaisant toutes les voiries du quartier, le cheminement, en créant une place centrale, en aménageant derrière multisport, en aménageant la plaine d'aventure. En montant un strict
workout.
Voilà. Et pour faire en sorte justement d'accompagner aussi ce mieux vivre des habitants et pas leur imposer de systématiquement descendre sur des installations sportives, de faire moins de déplacements en ayant sur place un peu ce qui leur est nécessaire. Et ça, ça a été fait aussi en collaboration avec l'association Vivre Fontanille, mais aussi avec les jeunes qui sont à l'association ou d'autres que l'on côtoie au travers du service jeunesse qui ont leurs activités à la salle Chaban-Delmas.
Alors on y reviendra avec Monsieur Jacques après. Donc comment on va pouvoir réduire les inégalités sur le quartier grâce à ce QPV? Donc on a parlé des mesures fiscales, ça va peut-être permettre aux entreprises d'embaucher. Concrètement, comment on va trouver grâce à ce QPV de mesures pour réduire ces inégalités? Je m'adresse à vous deux, qui veut.
Alors, pour réduire les inégalités, bon, moi, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a cette démarche de co-construction où on travaille en synergie sur des cibles identifiées ou des défis. J'aime bien parler de défis. Et il y a un certain nombre d'appels à projets. Cité éducative est vraiment la réponse à notre question. Aujourd'hui, il n'est pas tolérable que des jeunes n'osent pas se lancer dans des filières générales. Il faut qu'on puisse aussi leur expliquer qu'ils ont le choix, qu'ils ont la possibilité, qu'on est là pour les accompagner. Donc, ce n'est pas de changer du jour au lendemain toutes les inégalités et de les effacer. On n'aura jamais cette possibilité-là. Mais c'est de travailler sur certains points, les points qui nous ont été fait remonter par les habitants, et de voir comment on peut améliorer, comment on peut faire autrement.
Donc là, il y a des actions pour cette fin d'année à hauteur de 40 000 euros. Comment ça va se passer en 2025 ? On relance un appel à projet ? Ce sont ces actions-là qui se poursuivent ? Il peut y avoir un peu des deux, des nouvelles actions, des anciennes qui se poursuivent ? Et un budget supplémentaire, j'imagine, vu que c'est sur une année complète ?
Oui, bien sûr. Là, on démarre avec 40 000 euros. C'est l'année zéro. C'est le plus petit budget possible. Et déjà, on a mis beaucoup d'actions en place. Et je remercie tous nos élus et toutes nos associations qui ont répondu présentes lorsqu'on a lancé cet appel à projet cet été. Et il y avait énormément d'idées, des idées magnifiques, très concrètes. Hein. Je pense pour nos aînés, la résidence Piencourt va accueillir pour des cours de cuisine nos aînés en centre-ville. C'est vraiment une très belle action. L'association de quartier aussi va permettre aux jeunes d'aller à Dino Park ou faire des tournois de foot. Enfin, c'est très très concret. Donc l'année prochaine, évidemment, on aura encore ce socle de 40 000 euros où on va à nouveau relancer des appels à projets et on sait que nos partenaires répondront présents. Et on va faire en sorte de faire grossir notre enveloppe en répondant petit à petit. Il ne faut pas, je pense, s'éparpiller, mais se construire doucement, avec des fondations solides. Et petit à petit, on va faire grossir notre quartier et avoir plus de financement.
Alors ça s'adresse à qui ? Donc des associatifs ? Il y a quoi ? Il y a des établissements publics ? Qui répond à ces appels à projets là ?
Alors, bien sûr, il y a des associations, il y a des collectivités qui ont répondu à l'appel à projet. Mais, je veux dire, on voit aujourd'hui déjà un petit peu dire les fruits de cette signature de QPV, parce qu'on avait énormément de difficultés à faire venir les associations sur le quartier pour proposer des activités. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, la maison de quartier, elle va être trop petite au bout de la démarche, parce que il y a énormément d'associations qui se sont portées volontaires pour venir sur le quartier, le CIDFF, la DIL, vous-même d'ailleurs. Et donc finalement, ça répond bien à un quartier, puisque les gens aussi répondent présents. L'association des villes françaises qui vient faire des cours de cuisine également ici. Donc les gens aussi commence à s'approprier ce lieu et ses activités. Et donc, finalement, c'est des choses qui vont se faire petit à petit. Et pour 2025, il y a aussi un appel à projet important concernant le vieillissement. C'est quelque chose que porte le CIAS, la Maison Solidaire, et qui va permettre justement de mieux accompagner nos aînés.
Alors, vous me tendez la perche, on parle de l'âge. On a parlé d'action envers les jeunes, envers les personnes âgées. En fait, on touche tout public.
Tout âge, tout public.
Nos aînés, les jeunes, les retraités, les familles monoparentales. On a des actions d'aide à la parentalité. Vraiment, c'est un champ vaste. C'est vraiment notre objectif d'améliorer concrètement la vie des habitants.
Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Quand on pense quartier, souvent les quartiers, ils ont une population très jeune. Dans les quartiers français, en zone urbaine, il y a beaucoup de jeunes. C'est quoi, ce quartier de Fontanie, Thierry Jacques, il est composé majoritairement de jeunes ou c'est à peu près équilibré entre les différentes tranches d'âge ?
Ça semblerait peut-être équilibré quand même.
Voilà. D'accord, on n'est pas dans cet esprit-là. Alors, c'est intéressant, ces QPV, on parlait du changement en 2014 pour qualifier les QPV. Dans les années 90, vous l'avez un peu évoqué, Madame Trottin, sur la première partie de votre première réponse, on appelait ça le développement social des quartiers. Alors, la particularité à l'époque, c'était bien de construire avec les habitants les mesures qu'on mettait en place. Et c'est ce que vous faites maintenant, vous, en 2024, malgré que c'est changé en 2014, le développement social du quartier. On va parler aussi de ce quartier. Il faut le rappeler, il a été construit dans les années 50-60. Alors, je parle sous votre contrôle, Madame Bourgade. Il y avait une exode rurale à cette époque, hein, il faut s'en rappeler, où les îles rurales avaient du mal à absorber toute cette population qui venait. Et il y avait un problème aussi d'insalubrité des logements en centre-ville. C'était le cas à Mende comme partout ailleurs, d'où l'idée de construction de ces grands ensembles urbains, comme ici à Fontanille. Alors, on le doit à l'architecte départemental Julien Arnaud, responsable de la conception, qui a travaillé avec Robert Bournadet. C'est ça, Madame Bourgade ?
Si vous le dites, ça doit être ça.
D'accord, mais c'est mais... ça alors. Je l'ai travaillé avec le CIE. Et...
Effectivement, on a fêté les 60 ans du quartier l'année dernière. Et le quartier, il a été fait, comme vous l'avez dit très justement, parce qu'il y avait un certain nombre de logements en centre-ville qui étaient insalubres. Et on manquait aussi de logements pour une population qui était venu de l'étranger, quand on a accueilli les rapatriés d'Algérie, qui étaient logés dans des conditions indignes et pas du tout convenables, où il y a un premier bâtiment qui a été construit pour eux. Et puis, petit à petit, il a été nécessaire de rajouter au fur et à mesure des bâtiments. Tous ne sont pas construits en même temps, ça s'est échelonné au fil des ans. Et les derniers ont été construits en 72.
Voilà, c'est ça. Et la particularité, il y a deux particularités à Fontanille. Un, c'est qu'il a été construit sur une butte, donc c'est un quartier qui a coûté très cher avec la topographie, les travaux de terrassement, l'achat de terrain, toutes les études. Et seconde particularité, c'est qu'on se retrouve dans un quartier ici avec des immeubles à étages assez bas. Voilà. Contrairement aux autres quartiers de France. Alors ça, il y a eu un peu un problème entre l'architecte, la mairie de l'époque, le maire, monsieur Estoupe, avec le maire, les services du ministère, alors la municipalité qui voulait augmenter la taille pour avoir bien évidemment plus de population, l'architecte qui voulait les baisser pour que ça soit plus en lien avec le territoire, et le ministère a tranché entre deux, donc on était parti sur 3 étages et on arrive maintenant à 4-5.
4-5 suivant les bâtiments.
Voilà, 4 ou 5 sur... Alors ça, il faut le préciser parce que c'est aussi agréable pour ça, parce
Bien
que c'est un quartier à taille humaine.
Et puis aujourd'hui, c'est une bonne chose aussi parce que c'est compliqué pour louer des logements au 4e étage sans ascenseur, puisque à part la tour qui possède un ascenseur où il y a 7 niveaux, tous les autres, ils n'ont absolument pas de commodité type ascenseur. Donc quand on a des enfants en bas âge, des courses ou même des personnes âgées, aujourd'hui le bailleur a des difficultés pour louer les logements du 4e étage. Donc c'était une bonne chose finalement de ne pas avoir construit plus haut, parce que d'une part, ça serait moins intégré dans le paysage. Et d'autre part, aujourd'hui, ça sera encore plus difficile. Il faudrait se poser, le bailleur doit se poser des questions, de savoir si sur certains, il n'y a pas des possibilités d'aménagement. Il y aura aujourd'hui, il a des exonérations fiscales pour pouvoir remettre des aménagements et des améliorations sur les bâtiments. Leur réflexion aujourd'hui, c'est plutôt les réaménagements de caves qui posent des soucis au niveau des différents locataires. Mais pourquoi pas demain une accessibilité plus simple.
Déjà, lors des travaux en 2009, vous avez retravaillé tous les rez-de-chaussée pour permettre...
Pour les rendre PMR autant que faire se peut, oui.
Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, donc, il y a des logements, il y a 27% de maisons et 73% d'appartements sur ce quartier. Il y a quand même des maisons d'habitation individuelles.
Oui, mais ils ne font pas partie du QPV, maisons d'habitation.
Mais voilà, c'est pour ça que cette émission sert, on en apprend. Et j'espère qu'on vous en apprend aussi. Monsieur Jacques, vous allez rester avec nous en seconde partie d'émission, si ça ne vous dérange pas,
oui.
Parce que je ne vous ai pas beaucoup donné la parole.
Non, il n'y a pas de...
Voilà, et comme ça, on va accueillir de nouvelles personnes. Merci, Madame Bourgade. Madame Trottin, merci.
Merci à vous.
Et on va faire une pause musicale, on va continuer de parler quartier prioritaire, politique de la ville. Allez, pause musicale.
Simic, a حفوس حفوس وين دوينو إيران فتو إيميك سيميك حفوس حفوس وين دوينو إيران فتو I will take the train leave the sun for the rain and come downtown
Allez, nous sommes toujours en direct de la maison de quartier François Mitterrand de Fontanille pour parler du dispositif quartier prioritaire de la politique de la ville. Dans cette seconde partie d'émission, nous avons les deux chevilles ouvrières de ce projet, hein, Vincent Pasqualini qui est là, qui est directeur de la coordination interministérielle et de l'appui territorial. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons aussi Romain Vidal, directeur du Centre intercommunal d'action sociale Cœur de Lozère. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Je parle de cheville ouvrière parce que c'est vous que j'ai eu pendant tous ces mois pour travailler avec vous sur le projet que 48FM proposera. Et il y a eu du travail. Enfin, je vous ai vu beaucoup travailler parce que ça allait assez vite quand même entre cet été et ce début d'année de septembre pour tout mettre en place. C'est ce que je vais vous demander en première question, Vincent Pasqualini. On est sur l'année zéro de ce QPV et tout s'est accéléré assez vite. Tout est arrivé assez vite.
Donc effectivement, comme je représente la préfecture, il a d'abord fallu mobiliser tous les services de l'État, hein, comme il a été dit, l'éducation nationale, bien évidemment jeunesse et sport, la direction départementale des territoires pour ce qui concernait l'urbanisme ou le développement durable, ou encore la direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité pour ce qui concerne l'insertion professionnelle. Il a fallu mobiliser la caisse commune de sécurité sociale et bien évidemment les collectivités, départements, régions, communes, qui sont ces parties prenantes, signataires du contrat de ville et qui donc s'engagent à œuvrer dans une même direction.
Romain Vidal, comment le CIS Cœur de Lozère intervient dans ce QPV?
Déjà, hein, l'action sociale, hein, donc, on était déjà sur le territoire, hein, la maison de quartier avait déjà accueilli des actions que l'on menait. Et tout simplement, au moment du projet, on a été associés, on a très vite pu travailler avec Vincent sur ces questions, notamment tout ce qui était autour de la parentalité, l'autonomie, toutes ces questions-là, l'enfance, la jeunesse. Et effectivement, hein, c'est des actions qui relèvent du Centre intercommunal d'action sociale. Donc le choix a été assez vite fait, on va dire, de valoriser peut-être ce qui existait déjà, plutôt que d'aller inventer quelque chose. Voilà, on sait qu'on a un territoire atypique, on a un QPV atypique, comme on a pu l'entendre en première partie. Donc voilà, et c'est la chance qu'on a eue. Comme disait Madame Trottin, on a travaillé pas du tout en silo, ça a été assez transversal. Avec Vincent, en rigolant, on s'appelait collègues. Hein. Voilà, c'était très intéressant. Et ça nous a permis vraiment d'appuyer des projets réalistes. Et voilà. Comme disait Madame le maire précédemment, on disait que parfois on avait du mal à faire venir les associations sur le quartier. On avait du mal parce que ça a un coût. Voilà, aujourd'hui une association, on sait qu'on a pas mal d'associations qui aimeraient mettre des choses en place, mais parfois c'est le coût financier qui va simplement bloquer ou une salle. Donc voilà, vraiment la première des choses, moi, le gros bénéfice qu'on a eu par rapport à cela, c'est vraiment cet axe de travail.
Alors, tu parlais du milieu associatif. Thierry Jacques, il y a une association hein, à Fontanille.
C'est l'association Vivre à Fontanille. Elle était en sommeil là, jusqu'en 2020. On l'a relancée avec Madame Bourgade, qui est présidente, et moi-même trésorier, pour mettre en place des actions d'animation diverses et variées pour répondre au maximum à l'attente des habitants de Fontanille. Alors, on essaye de faire toute génération confondue. Et grâce justement au financement du QPV, on a pu mettre d'autres actions qui répondent et qu'on s'est aperçu lors du porte-à-porte pour savoir si l'association était connue, si les associations étaient connues sur le quartier. Ça nous a permis aussi de faire le bilan de ça. Donc on a écouté un peu les attentes de la population et on essaye d'y répondre au mieux, quoi. Et c'est grâce justement à ce financement, quoi. En l'occurrence, on fait la fête de Noël. Cette année, on met un tournoi de foot pour les personnes. On a fait une randonnée. C'est très varié. On fait des tarifs promotionnels aussi pour pas qu'il y ait de clivage avec le reste de la population, pour que les gens puissent bénéficier d'aller à Dinopédia, d'aller à Lozère Kid, d'aller à la piscine, ne serait-ce que d'aller à la piscine. Voilà, donc.
Mais ça, c'est des actions qui ne pouvaient pas exister sans ce QPV?
Ben, le financement est compliqué. On a une enveloppe, certes, mais on est obligé de faire des choix, quoi. Alors que là, on peut élargir.
On parlait de la construction de ces quartiers dans les années 50-60. Ça a toujours été pensé comme des micro-villes où on retrouvait tout à l'intérieur quand ça a été construit à la base avec les services médicaux, avec les commerces, avec les écoles. Là, il y a quand même trois écoles, si je ne me trompe pas. Oui. C'est toujours le cas. Il y a toujours autant de commerces, de services dans ce quartier.
Alors, depuis le mois de mai, l'épicerie-boucherie a réouverte, a été reprise. Donc on a de la chance, on a une pharmacie, on a un coiffeur, on a un buraliste, on a une orthophoniste qui s'est installée aussi là sur les locaux où auparavant il y avait un médecin, où il y avait deux médecins. Le problème aujourd'hui, comme partout, c'est les déserts médicaux, c'est de trouver un médecin pour s'installer sur le quartier.
Voilà, ça c'est partout, voilà. Partout en Lozère, même partout en France, malheureusement.
C'est quelque chose qu'on s'y a à faire de toute façon.
Du coup, c'est intéressant parce que moi, je me demandais, en réfléchissant à la construction de ce quartier où l'on retrouve tout, finalement, on se dit qu'on n'a pas besoin de sortir. Je me demandais si les quartiers, comme ils ont été construits, comme ils sont à l'heure actuelle, ils ne sont pas trop enclavés. Et là, depuis que l'émission a commencé, on m'explique que grâce à ce QPV, les associations extérieures viennent au quartier. C'est aussi ça, Vincent Pasqualini, l'objectif d'ouvrir le quartier vers l'extérieur, mais aussi que l'extérieur vienne au quartier.
Tout à fait, tout à fait. On avait tout de suite constaté qu'il y avait un manque de mobilité dans un sens comme dans l'autre, et faire venir les non-résidents dans le quartier, ça c'était vraiment un objectif. Et justement, quand on parlait tout à l'heure de l'articulation entre les services de l'État, collectivités et associations, l'intérêt d'avoir justement toute cette échelle, c'est de mettre en place une synergie et de palper les choses qui viennent du terrain, et donc de répondre d'une manière plus pertinente parce qu'on a les acteurs de terrain.
On a parlé des actions, tout à l'heure on a commencé à dresser une liste. Est-ce qu'il y a d'autres actions qu'on pourrait présenter, qu'on n'a pas évoquées, ou on a fait à peu près le tour en première partie d'émission?
Bon, je pense qu'il faut quand même qu'on parle. Tout à l'heure, il a été question de l'ambition scolaire et post-bac des jeunes du quartier. Donc il faut quand même qu'on souligne les actions justement menées par 48 FM, aussi par la Ligue de l'enseignement, par le soutien scolaire qui est réalisé par Velay Academy et l'association Saint-Vincent-de-Paul. On a aussi, on parle après, quand les jeunes deviennent de jeunes adultes, les grands adolescents deviennent de jeunes adultes, et bien il faut les intégrer dans la vie professionnelle. Et là, la Chambre des métiers et d'artisanat aussi propose des immersions dans les métiers et venir découvrir les métiers, tout ce qu'elle propose au CFA demande. On touche aussi les familles avec le CIDFF, donc le Centre des droits des femmes et des familles. Donc c'est vraiment, on essaye de toucher toutes les populations. Et un des gros opérateurs quand même de cette enveloppe cette année aura été le Centre intercommunal d'action sociale. Alors justement, je vais peut-être laisser la parole à son directeur qui nous expose comment il a vu les choses.
Mais comme on disait précédemment, on avait des idées depuis très longtemps sur Fontani, mais on manquait de moyens pour les mettre en place. Donc la première des choses, c'est une action un peu phare, ça a été la question du lieu accueil enfants parents, qui aujourd'hui a été réalisé 3 fois par semaine, mais dans les locaux du centre social Amande. On savait qu'il y avait une demande par rapport à Fontani, donc on a pu percevoir une enveloppe qui va nous permettre de mettre en place les mercredis après-midi, donc dans un premier temps une fois par mois, après de manière un peu plus peut-être importante, ce lieu accueil enfants parents, qui est très important dans la question de la parentalité. Madame Trottin a évoqué, donc effectivement, par rapport à nos aînés, une question qui revenait depuis très longtemps. On savait qu'on avait des personnes du quartier qui avaient envie de venir manger sur le restaurant de la résidence autonomie le midi. Donc on a pu mettre en place un ramassage avec un bus entre 10 à 12 personnes qui viennent manger les mercredis midi sur le restaurant de la résidence et qui profitent également d'une activité l'après-midi et reviennent sur leur logement vers 16h. Et on va retrouver après des actions autour notamment de la question des familles et de la parentalité avec le référent en famille. Et enfin, voilà, aussi beaucoup de choses autour de la jeunesse, c'est important. Donc là, en lien avec notamment l'association Vivre à Fontani, il nous avait fait remonter le souhait d'un groupe de jeunes qui voulait faire de la boxe éducative. Et voilà, là, c'est vraiment grâce à l'enveloppe du QPV qu'on va pouvoir mettre en place ça, en lien entre l'association Vivre à Fontani et le service jeunesse de la ville. Enfin voilà, donc vraiment, on est sur du pratico-pratique, et qui a pu être mis en place, appel à projet en juillet. On a eu la chance que Vincent puisse analyser très très vite les demandes, et dès septembre, au moins 50% de ces actions étaient déjà mises en place.
Voilà, parce que on a parlé de janvier tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pour ça que je disais que ça s'est fait très vite. C'est juillet et mise en place des actions en septembre. On a parlé d'une action sur le vieillissement aussi, Romain.
Oui, alors, comme je reprends les mots de Mme Bourgade et de Mme Trottin, le QPV ouvre droit à d'autres sources de financement. Donc là, effectivement, on parlait de l'enveloppe de 40 000 euros, mais en fonction de certaines thématiques, on peut avoir d'autres sources de financement. Donc là, ce qu'on a eu début septembre, c'est un appel à projet national autour de la question du bien vieillir, on va dire, sur les QPV. Donc on a pu répondre à cette, à, à ce projet. Alors, ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a pu le travailler en lien avec tous les partenaires, donc notamment l'Agence régionale de la santé, le conseil départemental, les services de la préfecture, l'ADMR, enfin voilà, j'en oublie, mais voilà un vrai projet structurant pour 3 ans. Alors là, on sait qu'il y aura peu de projets retenus, hein, 15 projets pour tout le territoire, mais voilà, on y a passé du temps, il y a une enveloppe assez conséquente à les récupérer, et voilà, donc on a eu un soutien important de tous les partenaires, notamment le conseil départemental et la préfecture, donc on aura le retour en décembre et on croise les doigts, si je puis dire.
Voilà, et les subventions parallèles sur d'autres projets, il y a aussi ce qu'on disait, Vincent, la cité éducative.
Hein. Oui, tout à fait. La structure budgétaire, en fait, de la politique de la ville, elle est construite sous forme de briques, avec une enveloppe départementale qui est à la main du préfet pour les actions des associations, mais après, il y a des labels nationaux, donc auxquels chaque QPV peut candidater ou pas, et c'est là où nous, la synergie, là, ce qui est parti, fait qu'on arrive à candidater à ces autres appels à projets. Donc cité éducative, là c'est vers les jeunes de 3 à 26 ans, donc du début de la scolarité jusqu'à leur intégration dans la vie professionnelle, mais après on peut aussi parler d'autres labels là, sur cité de l'entrepreneuriat, où on pourrait imaginer dans un futur à moyen terme, eh bien pourquoi pas avoir des pépinières d'entreprise, une pépinière d'entreprise. Voilà, on est sur une logique de long terme. On n'a pas dit tout à l'heure, mais le contrat de ville a une durée de vie de 6 ans. Donc là, on est en année 1 avec une toute petite enveloppe. L'objectif, c'est d'ajouter des briques et de se projeter sur le moyen et long terme. Très probablement, il y aura des aménagements et des équipements qui pourront peut-être être bâtis à horizon 3 ou 4 ans et qui permettront d'amplifier ce que l'on vient là d'engager.
Un mot peut-être sur l'action du jour qui se déroule là à côté. Alors j'avais appelé Pôle emploi, j'ai pas eu de réponse pour les inviter à venir parler avec eux. Place de l'emploi, c'est ça ?
C'est ça, voilà. Le but est de profiter, donc, on va dire, de ce partenariat né dans les, avec tous les signataires du contrat de ville notamment. Et donc Pôle emploi, dès le début, avait souhaité mettre en place cette action sur Fontanille. Donc voilà, c'est un dispositif qui aura lieu là, surtout l'après-midi, et qui permettra de présenter, on va dire, un petit peu France Travail, hein, aujourd'hui, ce qu'il est, sa structuration, vers quoi peuvent tendre les personnes, et ce qui est intéressant, voilà, en lien avec les personnes du quartier. Après, j'aimerais juste rajouter une chose, et c'est très important, c'est, comme vous avez dit, il y a deux flux. Il y a un flux à faire venir les Mandois sur Fontanille, qu'on voit. Et moi, je voudrais surtout pas qu'on mette une, comment on va dire, une coupole au-dessus de Fontanille en, voilà, en l'isolant. Au contraire, hein, vous voyez, par exemple, Vincent citait l'action de Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul a souhaité garder ce soutien scolaire sur ses locaux en centre-ville de Mende. Et ça, c'est important, parce que ça fait sortir les jeunes. J'ai moi-même, on a le service jeunesse sur l'anti-rouille et sur Fontanille. Donc le souhait est d'avoir les deux liens, voilà. Vraiment de se dire, voilà, éviter de... On est déjà, comme tu le disais en début, sur une colline en hauteur qui peut être parfois isolée. Donc voilà, c'est un vrai souhait que l'on a depuis le début d'ouvrir aussi le QPV sur le reste de la commune.
Alors justement, je n'étais pas au courant du QPV, je suis une association, j'entends cette émission et je me dis, mais c'est intéressant, je veux participer. Comment je peux faire ? Il y a un appel à projet, donc ça redémarre en 2025, mais j'imagine qu'il faut postuler avant. Comment on fait concrètement ?
Je dirais se rapprocher. Alors, comme c'est le préfet qui a la délégation des crédits, allez sur le site de l'État en Lozère, vous tapez Google Préfecture Politique de la Ville et vous arriverez déjà sur la page qui présente l'appel à projet. Comme évidemment la collectivité chef de file qui porte le QPV, c'est la communauté de communes Cœur de Lozère. Eh bien, il y a eu une communication sur son site de l'appel à projet. Donc, tenez-vous au courant d'ici la fin de l'année 2024, on lancera les préparatifs de l'année 2025.
Donc ça touche beaucoup de domaines. Est-ce qu'il y a une priorité, l'emploi, l'éducation, où on est à peu près au même niveau sur tous les domaines ?
Absolument pas. Voilà, c'est
pas
ça.
De priorité.
C'est ça qui intéresse. Pas de priorité. Je pense que s'il y a une priorité, et ça on y tient, c'est répondre à la réalité du territoire. Voilà. La chance que l'on a, c'est on a eu des moments où On a un QPV atypique parce qu'on a un territoire atypique, mais on voit que malgré parfois, pourtant on est sur quelque chose d'assez rigide, hein, politique de la ville, on entend, eh ben non, on a su adapter, répondre aux réalités du quartier, et j'espère que encore pour les 5 années à venir, on arrivera à avoir cette dynamique-là. Et l'autre point positif, c'est que ça a pu remettre une vraie dynamique partenariale, qui parfois est complexe, hein, on est toujours un peu... des fois tourner vers ses propres actions, et là il y a une vraie transversalité qui est née, et ça c'est formidable.
On parle de dynamique, Thierry Jacques, c'est un quartier qui est dynamique, Fontanille.
Oui, il y a beaucoup de choses qui se font, comme M. Vidal vient de le dire, ne serait-ce que l'occupation de la salle de quartier là, par les associations, les commerces, l'enquête qui a révélé qu'il quand même, il faisait bon vivre dans le quartier. Moi ça fait 25 ans que j'y vis avec ma famille. Ça a été un choix d'y rester, et nous comptons y rester, parce que nous y sommes très bien pour beaucoup de choses. Il y a du lien, on n'est pas stigmatisé une cité. C'est surtout le mot qu'il ne faut pas entendre sur le quartier de Fontanille. C'est un quartier, c'est pas une cité. L'ouvrir à l'extérieur, c'est formidable. On s'en aperçoit parce que les gens viennent, ils s'y trouvent bien. Donc... Non, il y a une vraie dynamique.
Eh bien, merci. On va pas tarder à clôturer cette émission. Je vais vous donner le mot de la fin. Si vous voulez rajouter quelque chose, je ne sais pas. Sinon, en attendant que vous cherchiez, je vais juste expliquer ce que va faire 48FM. Donc, 48FM va proposer des émissions radio par les enfants du quartier. On est en lien avec l'école des Terres Bleues de Fontanille. On a rencontré à peu près les 200 élèves de l'école. On va créer des émissions qui seront diffusées à des plages horaires spécifiques. Une radio Fonta où on va venir interviewer les gens du quartier. On va venir interviewer les associations du quartier. On va parler du quartier, de ce qui se fait par le biais de ces jeunes, de leurs grands frères, voire de leurs parents. Donc ça, c'est en train d'être mise en œuvre, et on aura des premières émissions après les vacances d'ici à pas longtemps. Vincent Pasqualini, pour clôturer cette émission, Romain Vidal, Thierry Jacques, je vous laisse la parole.
Allez, je me lance. Non, mais on se projette en fait sur 2030, donc sur les 6 prochaines années, avec des choses à moyen terme et à long terme. Mais surtout, ce qui importe, c'est de toujours tenir nos axes prioritaires ensemble et de ne pas les déséquilibrer. Il y a donc l'emploi et le dynamisme économique. Il y a tout ce qui est la jeunesse, la parentalité. Il y a tout ce qui est... tranquillité publique et le cadre de vie, avec peut-être des actions dans le sens du développement durable, la récupération d'eau, le manger sain, pourquoi pas, avec les jardins qui sont derrière. Et puis enfin, et bien sûr, l'accès aux droits et le lien social. Donc on veut vraiment tenir ces 4 piliers ensemble, équilibrés. Et ça ne peut se faire que si chacune des administrations et chacun des niveaux de collectivité est embarqué dans un même sens.
Innovation. Voilà, parce que c'est ça la chance qu'on a. Hein. Ça nous va sans doute nous permettre, comme on est sur un petit territoire, de parfois répondre à des projets un peu plus innovants. Et moi, je pense que ça découlera non seulement sur le quartier de Fontanille, mais sur le territoire en entier. Et il y a une question importante, hein, comme disait M. Jacques, c'est la question de la santé. Et voilà, on espère pouvoir travailler aussi cet axe plus facilement dans le cadre du quartier prioritaire de la ville.
C'est une vraie chance d'avoir ce dispositif du QPV là pour le quartier et pour la ville. C'est vraiment un travail de terrain, de proximité, d'aller vers les gens et de répondre au mieux à leurs attentes. C'est vraiment une chose formidable.
Voilà. Et pour se rapprocher de l'association Vivre à Fontanille, on fait comment ?
Vous pouvez contacter la maison de quartier, M. Roland Michel. Il n'y a pas de souci, on prend toute personne qui veut s'investir, qui a des idées.
Voilà.
Faut pas hésiter. Sur la ville ou sur le quartier.
Très bien, merci beaucoup. Cette émission sera rediffusée ce jeudi à 19h. Elle sera podcastable dans l'après-midi ou demain matin pour écouter si vous avez loupé quelque chose. Et en attendant, merci à vous trois d'avoir été là pour cette émission qui parlait quartier prioritaire de la politique de la ville.
Merci.
Merci. Merci.
Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma.
Théma.